Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un instant avec Gilles Gansman. Gilles, vous êtes là?
Bonjour Valérie.
Ben bonjour,
oui, même
Gilles,
le 1er mai.
J'attends votre muguet.
Il va arriver, il y a un coursier qui est en cours.
Baptiste Giabiconi sera avec nous. Oui. On a enregistré cette interview avec lui pour son livre « Karl et moi » qui est paru chez Robert Laffont, un livre dans lequel il raconte sa relation très particulière, filiale qu'il a eue avec Karl Lagerfeld. Donc on ne va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu puisqu'on l'a enregistré avant. Mais c'est passionnant, c'est un garçon qui a beaucoup de choses à dire. Donc ne manquez pas cette interview. 10h30, Rémi Pernelet, les dernières news médias. Et puis Gérard Collard, puisque vous le savez, les librairies vont rouvrir. Donc il faut se remettre vite à aller soutenir nos libraires. La lecture, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Donc les libraires vont ouvrir.
Moi, je vais commencer par le livre de Baptiste Giabiconi, vous voyez, je suis prudent.
Voilà, vous pourrez aller le... Non mais il est vraiment bien son livre,
ouais,
en plus. Franchement, c'est intéressant parce qu'il est, c'est quelqu'un, vous allez le voir, qui est assez humble et qui a eu une histoire assez incroyable. Vous allez l'entendre dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Baptiste Giabiconi. Bonjour Baptiste,
bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous
merci
publiez « Karl et moi » aux éditions Robert Laffont. Alors pour que les gens vous resituent, vous êtes mannequin,
oui.
Vous avez chanté, on vous a vu dans « Danse avec les stars », on vous a vu dans « Fort Boyard
oui. »
et vous avez été l'égérie, l'ami, le fils de Karl Lagerfeld, et c'est cette histoire, cette trajectoire incroyable, vous, petit garçon de Marseille,
oui,
venant d'un milieu populaire, qui vous retrouvez à être adopté, je vais mettre des guillemets, mais quasiment adopté par Karl Lagerfeld.
Oui, exactement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui monte à la capitale, et puis où son destin bascule, et c'est merveilleux. Voilà, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir être au plus près de Karl Lagerfeld pendant... ces 12 dernières années à lui, mais les 12 premières pour moi en tout cas.
Pour vous, parce que
oui,
vous aviez 18 ans quand vous l'avez connu. Moi j'avais une question sur le livre même, parce que Karl Lagerfeld était quelqu'un de très secret sur sa vie privée. Il parlait assez peu de sa vie privée. Et là vous racontez finalement une certaine intimité, un Karl Lagerfeld qu'on ne connaît pas et qu'on a rarement vu raconter d'aussi près. Vous pensez que ça lui aurait plu ça?
Oui, moi je pense que ça lui aurait plu dans le sens où il... pas de son vivant. Je me serais jamais permis, en tout cas, d'écrire ces choses-là de son vivant. Mais en tout cas, il m'avait dit, Baptiste, n'hésite pas.
Tu leur diras.
Tu leur diras, voilà. J'ai une confiance en toi, une grande confiance en toi. Et je sais que tu feras les choses correctement.
Oui, vous racontez les choses de façon assez pudique.
Oui, assez pudique, à la fois avec beaucoup de naturel. Je dénature très peu les faits, comment ça s'est déroulé. Et j'essaye d'être précis aussi, parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. J'imagine que vous avez fait le tri, il y a des choses sur lesquelles vous avez
décidé
de... On n'a
pas pu tout mettre.
Mais il y aura un tome 2, peut-être.
Peut-être.
On sent que c'est un vrai coup de foudre, en fait. On sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, à la fois beaucoup d'admiration, beaucoup d'échanges, mais en fait, vous étiez au-dessus de tout, au-dessus... vous parlez de l'amour, du sexe, vous étiez au-dessus de tout ça, en fait. C'est une relation que peu de gens ont avec quelqu'un.
Ouais, c'est pour ça que je décris cette relation. Enfin, j'ai du mal quelque part à la décrire, cette relation, et à la mettre dans des cases. Elle correspond à rien. C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir savoir définir, cloisonner la relation. Est-ce qu'il se passait quelque chose? Non, j'ai toujours dit que il s'est jamais rien passé
de sexuel, il y avait un sentiment amoureux.
Mais il y avait un sentiment
de séduction.
Il y avait un sentiment amoureux. Il y avait un sentiment affectif et puis protecteur de la part de Karl à mon égard, quoi. C'est ce qu'on retrouve d'un père souvent à un enfant.
Mais comment vous expliquez, vous avez même du mal à comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire que déjà il a flashé sur une photo, il vous a vu, il a cru se reconnaître en vous en voyant la photo, vous venez à Paris et puis il aurait pu être déçu, et en fait vous venez d'un milieu qui est à l'opposé du sien, vous n'avez pas du tout la même culture, vous racontez même que votre père était communiste, et là vous arrivez dans un monde de luxe, il y a énormément de choses que vous racontez, vous lui racontez que vous vivez en coloc, et il vous fait loger dans sa chambre d'enfant, c'est quand même assez incroyable, il vous connaît à peine.
Ouais, et j'ai du mal à
Qu'est-ce qui lui a plu en vous?
Comme je le dis dans le livre, je pense que ce qu'il y a plus, c'est vraiment ce naturel. J'arrive à Paris sans code. Il y a des codes dans le milieu, il y a des codes dans la mode. Et moi, j'arrive un peu les mains dans les poches. Je me dis simplement, j'ai envie de vivre cette expérience avec Karl Lagerfeld, même si ça dure qu'une soirée, ou je vais faire quelques photos simplement avec ce monsieur, mais quel souvenir, et puis ça sera important pour moi dans mon book.
C'était... Alors moi, j'ai retrouvé une archive au tout début de votre rencontre et de votre histoire. Voilà ce qu'il disait sur vous, et il était fier de vous avoir repéré, parce que beaucoup d'agences de mannequins vous avaient refusé et ne voulaient pas travailler avec vous, et voilà ce qu'il disait, c'est une très vieille archive.
J'ai vu en premier les possibilités que les autres imbéciles qui l'avaient vu pendant 6 mois n'avaient pas découvert. Peut-être son agence n'avait pas fait les bons choix. J'ai jamais voulu en prendre rien, je devais avoir un fils. Ça ne me déplairait pas, quelqu'un comme ça, de déterminer. Hein, je parle même pas de son physique, mais aussi de ce qu'il y a dans la petite tête. Parce qu'une gentille gueule, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Ça vous fait quoi?
Ça me fait quelque chose d'entendre Karl, je me souviens de cette intervention. Je crois que c'était pour On n'est pas couché à l'époque.
Absolument.
Et ça me touche que Karl puisse. C'était au début quand même de notre relation. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on se connaissait, et c'est allé très très vite.
Il dit, il y a pas que le physique, il y a ce qu'il y a dans la tête. Mais vous êtes arrivé, vous arriviez de chez Eurocopter, monteur ajusteur. Donc vous n'aviez pas la culture de Karl, vous n'aviez pas. Vous dites, moi, c'était plutôt effectivement d'écouter les Sardines et Patrick Sébastien que Wagner ou des choses comme ça. Donc il y a un décalage entre ce qu'il était et vous qui est assez étonnant.
Mais c'est finalement, je crois, cet opposé qui nous rapprochait.
Ouais.
C'est vraiment ce... Peut-être que finalement, je crois qu'il cultivait au fond de lui cet amour pour le côté populaire. Il aimait ça. Il était comme ça.
Oui, vous racontez. Alors, il faut vraiment lire le livre. Le livre est remarquablement bien écrit, avec la collaboration de Jean-François Kervéan. On entend Karl Lagerfeld parler quand on le lit. C'est vrai que vous rappelez souvent vos origines modestes, et vous racontez que, par exemple, vous regardiez Nos chers voisins, c'est ça, Scène de ménage.
Scène de ménage. Mais c'est vrai, c'était Karl regardait ça. Parfois, on le regardait ensemble. Alors, on n'imagine pas du tout Karl Lagerfeld regarder Scène de ménage. Mais il avait cette envie aussi parfois de regarder des choses un peu cool.
Et puis vous avez changé l'ambiance aussi des séances photos où vous avez mis de la musique un petit peu plus populaire et pour mettre
on était dans un côté très sérieux, très hype. Ça me parlait pas des masses, et puis je me suis dit, tiens, écoute Baptiste, va changer un petit peu tout ça. J'ai voulu sonder, j'y suis allé quand même un peu à tâtons, j'ai regardé, et finalement ça l'a fait rire, ça a amusé tout le monde, et il voulait que ça se reproduise, et finalement, même quand j'étais pas là, on me le reprochait de pas être là.
Quelle est la chose incroyable que vous avez vécue grâce à lui, ou la rencontre que vous avez pu faire grâce à Karl Lagerfeld, ou à quelque chose qui est presque inatteignable pour le commun des mortels?
Assez rapidement, c'est quelque chose qui m'a bluffé. Enfin, je me suis dit, on a tout de suite travaillé ensemble beaucoup. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et quelques mois après notre rencontre, on est parti à Buenos Aires avec Claudia Schiffer, en avion privé, faire une campagne Chanel là-bas. Enfin, je veux dire, ça faisait beaucoup pour un gars de Marseille de 18 ans. Claudia Schiffer, avion privé. Voilà. Ouais. Ça peut faire tourner la tête à beaucoup et on peut perdre pied. Et finalement, il m'a toujours dit, Karl Baptiste, il y a des gens qui sont faits pour sauver, d'autres pas. Et nous, tous les deux, on est faits pour sauver. Il voulait que... Il avait pu déceler chez moi cette façon-là de cadrer les choses et de ne pas se perdre.
Ouais. De garder la tête froide, ce que vous racontez. Mais vous êtes, alors pour répondre à la question de Gilles, vous racontez cet été 2018 où vous arrivez à Ramatuelle, où il louait 2 villas. Il faut signaler que vous êtes le seul à avoir le droit de le tutoyer.
Ouais,
et que vous étiez le seul à avoir droit de loger dans sa villa alors que les autres étaient dans l'autre villa. Mais surtout, vous racontez, quand il ouvre le garage et que vous voyez les voitures et la Lamborghini, vous n'en revenez pas.
Oui, alors...
Entre autres, parce qu'il y avait des Rolls, il y avait...
Je me permets, je ne sais pas si c'est en été 2018 ou en été 2008.
2008, j'ai dit une bêtise.
2008. C'est l'été 2008. C'est pareil, ça faisait un mois ou deux qu'on se connaissait, car on avait l'habitude depuis 2007... d'aller à Saint-Tropez, à Ramatuelle, pendant un mois, au mois d'août. Et puis, il m'invite gentiment. Et là, Bon, j'arrive et je découvre toute une panoplie de gros, gros jouets. Voilà, et notamment où il a Lamborghini. Et puis voilà, il met à disposition un attirail pour pouvoir s'éclater. Enfin,
mais lui, il conduisait.
C'était Disneyland. Hein.
Non, lui, il conduisait pas.
Non, il ne conduisait pas, mais il avait beaucoup de voitures.
C'est dingue.
C'était, vous le dites dans le livre, c'était le contraire d'un snob. C'était quelqu'un de raffiné, mais il n'était pas snob.
Non, il n'était pas snob. En fait,
c'est loin de l'image. Enfin, ce que je vous ai dit avant que vous arriviez, moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. Quand je l'ai reçu la première fois, j'étais terrorisée en me disant il va être odieux. En fait, il était, mais c'était un chaton, quoi.
C'est aussi le paradoxe de Karl qui faisait aussi sa grandeur de ce personnage. Et puis. Quoi dire de plus sur Karl, c'est...
Ouais. Vous avez souffert quand même de l'entourage. Ça n'a pas toujours été facile de voir arriver quelqu'un comme vous. Et puis, les rumeurs, vous avez à un moment, des gens venaient lui rapporter des choses sur vous. On a dit que vous étiez gay, que vous étiez un toy boy, que vous étiez... Enfin, ça a été aussi assez difficile par moment.
Oui, ce n'était pas évident à gérer, mais c'est quelque chose que j'ai abordé rapidement avec Karl. J'ai voulu désamorcer un petit peu les premières questions un petit peu angoissantes, etc., où je me retrouvais confronté un petit peu au regard des autres. Il m'a dit, Baptiste, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Le plus important, c'est qu'on parle de toi. Peu importe de la manière dont on parle de toi, tant qu'on parle de toi, c'est que tu existes.
Pourquoi avoir communiqué sur le fait que vous étiez un de ses héritiers, parce que vous auriez pu le garder pour vous, et vivre cette histoire de votre côté? Pourquoi avoir voulu en parler, en fait?
J'en ai pas réellement parlé, on m'a posé la question, j'ai répondu à cette question-là. Pas du tout,
non.
Pas du tout. Je suis très très fier, très honoré d'être quelque part
cet héritier.
Non, mais je veux dire, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi cet héritage culturel, c'est ce porte-flambeau, c'est un devoir de mémoire où Karl, quand même, c'était un monsieur, il savait ce qu'il faisait. Quand il faisait des choix, il les faisait pas à moitié, ces choix-là, donc... S'il a décidé de me positionner là où il m'a positionné, c'est que c'était mûrement réfléchi. Et aujourd'hui, je me dois d'honorer cette mémoire-là.
Ouais. Vous vous êtes parlé avant sa mort? Vous avez dit des choses?
Vous racontez, c'était une de mes questions sur la fin du livre. Vous racontez effectivement les derniers moments de Karl. Vous ne l'avez pas vu. Il ne voulait pas que vous
voir. Il voulait me protéger de ça. Il voulait me protéger. Il voulait me protéger et à la fois aussi, il était pudique par rapport à ça. Ouais.
Il ne voulait pas qu'on le voie mort. À part Sébastien Jondot qui était... votre frère aîné, j'ai envie de dire, c'est-à-dire.
Ouais, Sébastien, c'est une personne que j'ai toujours aimée. Après, bon,
qui était le chauffeur et qui était un très très proche de Karl Lagerfeld.
Karl, surtout, il voulait me protéger de la maladie. Il voulait pas que je le voie un petit peu peut-être
dépérir.
Voilà.
Il voulait que vous ayez une bonne image de son physique.
Il voulait que je garde une image clean, claire de lui, et c'est cette image-là que je veux garder. Alors c'est vrai que c'était dur parce qu'on a besoin parfois pour faire un deuil de se recueillir, de voir la personne et de lui dire un dernier au revoir. J'ai pas eu cette chance là, mais
vous le regrettez.
Il faut apprendre à vivre avec. Oui, je le regrette.
Le lendemain de l'enterrement des obsèques de Karl Lagerfeld, vous vous êtes dit ce que vous dites dans le livre, comment je vais faire sans Karl maintenant?
Ouais, je me suis senti orphelin. Ouais. C'est vrai que quand on évolue aux côtés de Karl pendant plus de 12 ans, on a l'impression que c'est pour la vie, que c'est à la fois qu'il n'y a pas de fin, que c'est sans fin. Mais en personne normalement constituée, je savais évidemment qu'un jour ou l'autre...
Il allait partir.
Ouais. Et c'est pour ça que je me suis prémuni de ça. Et j'ai anticipé un petit peu les choses. J'ai voulu naviguer de mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Et puis... Faire mes expériences aussi. Et puis
vous avez fait beaucoup de photos avec lui, on a vu un peu.
Il y en a dans le livre qui sont magnifiques, des très belles photos, dont une, pardon, Gilles, qui est très émouvante, qui est votre toute dernière photo à la terrasse de chez Sénéquier.
Le dernier été.
Et qu'il avait les légendes père et fils.
C'est vrai, il m'avait envoyé cette photo, et puis il m'avait envoyé pour légender la photo par message père et fils. Voilà. Et
il a vraiment voulu vous adopter?
Oui, bien sûr, on en a discuté, on a eu cette discussion, on partageait tellement de moments ensemble, c'était finalement, on était un petit peu au-dessus de tout ce qui pouvait se passer. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très juste. Il y avait quelques, c'est sans prétention, mais il y avait nous et les autres.
C'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. Il y a aussi, il y a le revers aussi de ça.
Vous avez
que vous avez évoqué à un moment dans le livre la prison dorée avec une porte ouverte.
Une porte.
Ouais. Il y en avait d'autres qui étaient fermées. Il y avait des contraintes quand même.
Ouais, il y a des contraintes. Ben, dans la vie, on ne peut pas tout avoir non plus. C'est comme ça aussi. Et ça nous a valu aussi des querelles.
Oui, vous êtes engueulés après Danse avec les stars. Alors, vous racontez cet épisode. Ah, j'invite vraiment les gens à le lire parce que vous racontez qu'il s'est passionné. Vous racontez que Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, qui est... personnage historique chez Chanel, qui a connu Coco Chanel, qui doit se voir remettre une décoration par Karl Lagerfeld, qui l'expédie parce qu'il a dansé avec les stars.
Oui, c'est vrai. Bon, ouais. Marie-Louise, elle, Dieu merci, elle m'en tient plus rigueur, mais je pense que sur le moment, ça l'a peut-être un petit peu touché, ce qui est légitime.
Et après, dans Danse avec les stars, il y a eu une petite brouille. Il y avait entre vous, non? Ça a été parce qu'il y a des gens qui sont venus lui raconter des choses.
Oui, après voilà, c'était toujours des personnes qui pouvaient s'immiscer dans notre relation. Mais bon, ça c'est connu. Et derrière, là où on avait vraiment cet avantage, Karl et moi, c'est qu'on communiquait, c'est qu'on se disait les choses. Et il n'y a qu'en communiquant, en se disant les choses, qu'on pouvait désamorcer.
Les non-dits, justement. Non-dits,
voilà. Comment il aurait pris si vous aviez eu une fiancée? Il aurait été jaloux.
Parce que vous le dites dans le livre, vous ne l'évoquez jamais.
Comment avoir une copine quand on a une relation
fusionnelle
comme ça,
à ce point-là?
Ça aurait été compliqué, en fait. Vous êtes plus libre maintenant, peut-être, de vivre une autre histoire.
Oui, je l'ai vivé, mes histoires, il savait. Je vivais mes histoires.
Mais ça, vous n'en parliez pas, vous le dites, par exemple, pendant vos vacances à Saint-Tropez.
Je ne l'exposais pas.
Oui, c'est ça.
Il savait très bien, loin d'être bête, Karl, il savait très bien ce que je faisais. Et d'ailleurs, il respectait. Maintenant, présenter une personne, l'amener à table, déjeuner avec Karl, etc.
Ce n'est pas possible.
Je trouvais que ça enlevait quelque chose à notre relation, ça enlevait une certaine complicité. Parce que lui aussi, ce qu'il aimait, c'était la fraîcheur de la jeunesse aussi, où
l'innocence
on ne se pose pas trop de questions, on vit l'instant présent, on fait quoi. Et c'est à la fois avec beaucoup
de légèreté,
de délicatesse, et voilà. Quand on mûrit, on devient un petit peu plus...
Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est à propos de Katy Perry. Vous dites, est-ce que vous avez une histoire avec elle? Parce que vous racontez que vous l'avez vue, et puis vous dites, et là, comme dit mon pote Bison, j'ai ferré le poisson, en parlant d'elle. Et je n'en ai pas parlé à Karl. Donc je me dis, what? Baptiste Giabiconi a eu une relation amoureuse avec Katy Perry?
Complètement, bien sûr. Mais c'est sorti dans la presse en plus.
Ah, je ne savais pas.
Mais en fait, vous avez bidonné.
Alors, j'ai bidonné, non.
Vous l'avez piégé, en fait. Vous avez piégé Katy Perry.
J'ai un peu piégé
Katy
Perry.
Vous l'avez sorti du plaza, ce que vous racontez.
C'est ça, parce que les Américains sont très forts pour nous piéger. Mais je me suis dit quand même, un petit Français de Marseille, ça peut piéger une Américaine. Gentiment, évidemment. Hein. Non, j'ai...
Mais il s'est passé quelque chose ou pas?
Oui, il y a eu...
Ah oui, d'accord,
on est resté pendant 3 mois ensemble. Et puis, voilà, il y a eu cette petite anecdote où j'ai appelé un pote à moi qui était photographe et qui a immortalisé le moment à la sortie du plaza. Mais c'était... Elle m'en a pas tenu rigueur.
Non. Vous avez vu sa fraise? Enfin, elle a une fraise tatouée sur le
pied. On a eu peur.
Ce serait pas permis. Et justement, en parlant de ça, vous racontez aussi dans le livre qui vous a pris tout nu et qui appelait votre sexe le petit robinet, c'est ça?
Non,
c'est
un tuyau d'arrosage.
Le tuyau d'arrosage.
Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous l'avez vu nu?
Non. Alors, honnêtement, je ne m'attendais pas à cette question-là, vraiment. Mais non, je ne l'ai jamais vu nu. Et Karl était un monsieur très pudique, vraiment.
Vous parlez de ses chemises de nuit, quand même.
Oui, parce que parfois, il m'envoyait des photos avec choupette, etc. Et j'ai eu quelques fois l'occasion de le voir quand il travaillait, même sans aller se coucher. C'est vrai qu'il mettait souvent
une espèce de chemise de nuit.
Une chemise de
longue,
nuit très, très longue. Et même la journée, quand il travaillait chez lui... Pour se sentir beaucoup plus à l'aise, il travaillait comme ça.
Mais en fait, il était toujours à 4 épingles.
Avec un col haut, toujours.
Avec un col haut. Même la chemise de nuit? Non.
La chemise pour travailler la journée, pas le soir.
Ouais. Mais vous l'avez jamais vu physiquement détendu avec un t-shirt?
En jogging.
Parce qu'il trouvait ça, c'était... le jogging, c'était vraiment le fashion faux pas. C'était pas possible. Ouais. Il concevait pas la mode pour lui, c'était pas le jogging, loin de là. C'était... Ouais.
Alors, il faut lire vraiment ce livre parce que c'est au-delà de Karl Lagerfeld, c'est l'histoire, c'est votre histoire à vous, c'est comment. Parce qu'encore une fois, je trouvais que c'était important que vous racontiez. Je vais vraiment laisser les gens découvrir cette soirée au VIP Room vous êtes dégoûté par cette débauche d'argent, de champagne, de magnum de champagne entre un Malaisien et un je ne sais plus quoi qui commande et qui...
Et un Pakistanais.
Et un Pakistanais. Donc vous avez effectivement ce côté de la tête, des pieds sur terre, conscient de l'argent et vous savez d'où vous venez et vous ne l'oubliez pas. Parce que c'est vrai que vous auriez pu avoir la tête qui tourne dans ce monde-là.
Ça peut aller très très vite. C'est vrai que j'ai gardé la tête sur les épaules. J'ai les valeurs que mes parents m'ont appris. Mes parents, ils ont gagné 1500 euros par mois et c'est difficile aujourd'hui quand on gagne ça et qu'on voit cet argent partir dans de l'alcool, dans des soirées comme ça.
Où on s'arrose, un petit tacle à Jean-Roch au passage.
Il est gentil, Jean-Roch, il fait son travail, il fait son métier.
Qui a gagné peut-être trois fois son année avec la cave qu'il a vendue et qui gueulait sur les banquettes.
No spray,
ne tâchez pas la banquette. Alors qu'il aurait eu 1000 fois l'argent pour refaire la boîte, en entier, ou le facturer même au Pakistanais qui n'avait rien à faire.
Ça m'avait marqué, c'était une anecdote assez drôle d'entendre Jean-Roch dire no spray. Alors que la cave venait d'être vidée.
Le patron du vieil pyromane.
Comment vos parents ont vécu tout ça? Vous les avez aidés financièrement? Il les a aidés? Ou leur vie a changé? Ou ils vivaient ça à distance?
Mes parents, ils ont toujours vécu ça quand même à distance. Mon père, lui, il s'est jamais trop rapproché de tout ça. Il est resté en Corse à s'occuper de son potager, etc. Avoir toujours quand même un regard bienveillant sur ce que je faisais et heureux sur ce que j'accomplissais. Ma mère était quand même beaucoup plus présente. Elle venait au défilé. Karl, ils se connaissaient bien avec Karl. Ils échangeaient aussi au quotidien. Et effectivement, Karl nous a permis de pouvoir quand même faire plein de choses, même pour ma mère aussi, pour lui apporter plus de confort. Je le remercie encore.
Bon, en tout cas, c'était quelqu'un de bien, Karl Lagerfeld.
C'est ce qui
ressort du livre et cette relation qu'il a eue avec vous en témoigne. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai lu du début à la fin. Ce n'est pas toujours le cas quand on reçoit des invités. J'ai trouvé ça intéressant sur Karl Lagerfeld et puis sur votre trajectoire à vous, ce petit garçon de Marseille qui se retrouve projeté dans cet univers de la mode. Ça s'appelle Karl et moi, Baptiste Giabi. Biconi, voilà. Chipiron, c'est ça, non? Comment il vous appelle?
Chapiron,
absolument. Vous verrez pourquoi. Puis il y a tout un chapitre sur Choupette. Très, très chaud, le chapitre. On sent que ça a été un gros sujet. C'est paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Baptiste, d'être venu ce matin.
Merci.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et Rémi Pernelet nous a rejoint pour les dernières infos médias. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent dans les médias. Bonjour Rémi, vous allez bien?
Bonjour Valérie, oui très bien. Bonjour Gilles. Oui, bonjour.
Alors les chaînes sont évidemment dans réflexion sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent et en particulier à la rentrée. Et TF1 qui annonce une grille presque normale. Alors là aussi, tout est dans le presque.
Oui, absolument, tout est dans le presque, puisque en vérité, on sait bien qu'il y a des choses qui vont pas revenir. Alors TF1 et notamment Ara Aprikian a communiqué récemment en expliquant que bien sûr l'ensemble des programmes de TF1 sont impactés, plusieurs dizaines de tournages ont été suspendus, mais ils expliquent qu'ils font des acquisitions et puissent dans le stock, ils tournent aussi grâce à de nouveaux modes de production et que il prévoit d'avoir une grille quasiment normale à la rentrée. C'est une grande différence avec France Télévisions, puisque France Télévisions avait dit nous ne changerons pas la grille, la grille sera la même jusqu'en janvier 2021, et c'est en janvier 2021 que nous ferons notre nouvelle grille. Et donc Aprikian explique notamment que
le
patron des programmes,
des programmes de TF1
explique que bien sûr ils ont été obligés de faire des économies massives, mais enfin on retrouvera après l'été The Voice Kids par exemple, la quasi-totalité des émissions ont été mises en boîte. On retrouvera également Koh-Lanta. Alors ils annoncent Mask Singer qui devrait être prêt pour septembre, mais le problème de Mask Singer c'est quand même que il y a un tournage en public, on y reviendra. Et puis en fiction, ils ont encore pas mal de stock, ils ont les 4 derniers épisodes de la saison 10 de Profilage, les nouvelles saisons de Section de Recherche, Alice Nevers, donc après il y a aussi toutes les séries américaines, donc ils expliquent peut-être un peu, il y a un peu de com' là-dedans d'après moi.
Moi, que...
Ça sent l'annonce pour les actionnaires et pour faire pas tomber le cours de bourse, moi je vous le dis. Hein.
Parce que des actions, il est déjà très bas, le cours de bourse
est déjà très bas. Donc moi je vous dis, The Voice Kid plus Masked Singer, plus tourner les émissions en public, plus les vedettes et autres. Moi, j'ai vraiment des doutes.
Vous parliez du cours de bourse, Gilles. TF1 vient d'annoncer avoir réduit de 23 millions ses investissements parce que, en fait, alors que Gilles Pélisson, le PDG de TF1, s'était engagé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une marge à deux chiffres, c'est-à-dire plus de 10% de bénéfices, il est passé sous les 10% pour la première fois au premier trimestre 2020. Donc c'est quand même des pertes extrêmement fortes et donc ils ont fait ils sont en repli de près de 3 points par rapport au début de l'année 2019. Donc vous voyez que l'impact est immédiat. M6 a également communiqué ces chiffres hier et ils ont eux aussi un impact négatif extrêmement fort. Donc voilà, tout le monde est dans une situation très compliquée.
Alors qu'on n'a jamais eu autant de téléspectateurs, c'est ça l'ironie de la situation.
C'est ça qui est paradoxal. Ouais.
C'est complètement dingue. C'est en ce moment qu'ils devraient cartonner en pub et en rentrée d'argent. Et évidemment, il n'y a aucun investissement.
La pub n'est pas là, effectivement. Donc, je pense que le Covid-19 va avoir bon dos aussi. C'est ce qu'on évoquait hier dans le 11h midi. C'est qu'il y a beaucoup de médias qui vont profiter de ça pour faire du nettoyage de leur grille. Les feuilletons pourront-ils revenir avant l'été, Rémi ?
Alors ça, c'est une question qui passionne beaucoup de téléspectateurs. Ouais. Vous savez que déjà...
Demain nous appartient, plus belle la vie.
Alors voilà, Demain nous appartient, c'est arrêté. Un si grand soleil également. Et alors, il y avait encore Plus belle la vie qui avait des épisodes inédits jusqu'à aujourd'hui et même demain. Mais dès lundi, il n'y a plus de stock. Et donc, ils vont rediffuser des épisodes. Des épisodes carrément, ils sont allés chercher des épisodes de 2015. C'est quand même assez loin. Hein. C'est l'intrigue autour d'Estelle et de Noam. C'était une histoire qui avait occupé toute l'arche principale de l'histoire au cours de l'été 2015. C'est ce qui va être fait.
Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à faire ça, à regarder une saison aussi
vieille ? Je suis pas sûr.
C'est vraiment une décision très bizarre. Hein.
Vous savez, les amateurs de feuilletons, ils sont quand même assez prenants. Je pense qu'ils vont être contents de retrouver... on va voir les audiences, mais je pense qu'ils vont être contents de retrouver leur rendez-vous régulier. Et pour les autres feuilletons, TF1 explique que le tournage de Demain nous appartient, ils espèrent pouvoir le reprendre en juin. Ça me paraît ambitieux. Ça me paraît très ambitieux.
On a eu Jean-Luc Azoulay, qui lui envisageait de reprendre dès le 12 mai.
Dès le 12 mai, et avec les comédiens, disait-il chez vous, qu'ils n'enlèveraient leur masque que pour tourner les scènes.
Qu'ils seraient tous testés, et que tous les comédiens seraient testés.
Et puis prise de température, et puis...
Si ce système fonctionne, c'est certain que ça va servir de modèle et qu'il y a d'autres feuilletons, à mon avis, qui vont reprendre le tournage. Parce que ça, c'est quand même un ressort important de l'antenne. Même si aujourd'hui, il faut reconnaître que les deux chaînes TF1 et M6 qui ont créé des programmes situés en mode confinement, qu'il s'agisse de Qui veut gagner des millions à la maison ou de Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac. Ces deux chaînes fonctionnent très bien. Les audiences sont bonnes. Pour M6, elles sont quasiment deux fois supérieures à ce qu'elles étaient l'année dernière avec le programme précédent, Chasseurs d'appart. Et sur TF1, elles se stabilisent aux alentours de 2,5 millions, ce qui, pour le coût de l'émission, est pas mal, à mon avis.
Parce que si on suit le déconfinement tech qu'il est prévu, imaginez qu'un comédien ait le virus ou soit détecté positif. Vous savez qu'il y a une enquête sur tout son entourage et puis que lui doit être isolé, donc ça veut dire qu'il va être isolé à l'hôtel 14 jours, que les autres comédiens vont être eux aussi bloqués de tournée parce que son entourage, on fait toute l'enquête de bloquer aussi l'entourage.
Ça, c'est d'être très compliqué.
Je pense que ça va être... Si jamais ils ont un malade, un technicien sur le tournage qui est malade, si les choses s'enclenchent telles que c'est prévu par le gouvernement, je peux vous dire que le tournage, il s'arrête immédiatement.
Mais vous avez tout à fait raison, évidemment, c'est pour ça que je pense que ce sont pas mal d'effets annonce. Et puis, alors, il y a un autre problème, Valérie, qui se pose pour tous ces tournages d'émissions, c'est le problème du public. Parce que là, aujourd'hui, bien sûr, aucune émission ne peut être tournée en public. Et je pense que ça va être pour longtemps, en fait. Là, ça va sans doute dépasser, passer au-delà de l'été. Et donc, c'est un vrai problème sur lequel se penche énormément de chaînes. Alors, première chose, d'ailleurs, dont on peut parler, c'est The Voice. The Voice, dont les émissions déjà enregistrées sont terminées samedi dernier. Eh bien, il reste les deux, la demi-finale et la finale à tourner. Et ces finales sont en direct et en public. Très clairement.
Vrai casse-tête pour TF1.
Vrai casse-tête, et sans doute que ce sera pas possible de tourner en public. Je crois que
avant un très grand moment, ouais.
Ouais, je crois que du coup TF1 peut-être envisager de les tourner sans public mais en direct. C'est quand même compliqué pour The Voice. En revanche, Koh-Lanta, qui va être dans le même cas de figure, hein, puisque la finale de Koh-Lanta est toujours en direct. Koh-Lanta, ce sera, ils pourront tourner leur finale en direct, mais en revanche, ce sera en mode confinement, mais sans public, et peut-être même pas en visioconférence, selon la situation dans laquelle on se trouvera au moment du tournage.
Parce qu'il y a je trouve que ça manque pas le public. Enfin, les quelques émissions que je vois quotidien, je vois pas ce que ça apporte d'avoir des gens derrière, mais c'est un avis très personnel.
Parlez-en à Touche pas à mon poste et à Cyril Hanouna, qui voit audience tomber
C'est peut-être pas dû qu'au public. Hein.
Bah, ça permet de faire son numéro, ça motive quand même quand vous avez des gens qui applaudissent, qui réagissent, qui rigolent.
Rémi Faure, qui est le patron des programmes de flux de TF1, explique que l'impact est très différent selon les émissions, en fait. Par exemple, des jeux télé quotidiens, l'impact est parfois très important. Dans les grands divertissements, par exemple, c'est lui qui dit toujours ça, le public a un vrai pouvoir. On dit parfois qu'il est le cinquième juge, la voix du téléspectateur. Là, je pense évidemment à The Voice, où ce sera très difficile. En revanche, Nagui, on le sait, va tourner de nouveaux épisodes de ses jeux sans public. Et leur raisonnement est de dire le public, les téléspectateurs préfèrent un jeu inédit sans public que des rediffusions de jeux déjà diffusés avec public.
Jean-Luc Reichmann aussi, il veut absolument réenregistrer avec des caméras automatiques et sans public. Ça va être très triste.
On peut dire quelques mots.
Ça va être que les animateurs qui vont se retrouver sans public, leur rôle va être beaucoup plus important. On voit les animateurs qui arrivent à porter des émissions. Moi, je pense à Camille Combal, où je trouve que ça repose beaucoup sur lui, alors qu'auparavant, il y avait quand même le public, il y avait la mécanique du jeu, et donc lui, il s'en sort. Et on va voir si certains animateurs arrivent à s'imposer malgré l'absence de public. Je pense que ça va être une importance. Ouais.
Et puis moi, je vous donne une petite info. Oui. Vous savez que j'aime bien regarder ce qui se passe aux États-Unis ou à Los Angeles. Et ben, il y a eu une révolution ce week-end. C'est les Oscars qui ont changé leur règlement, qui n'avait pas été changé depuis leur création. Ils ont changé une chose qui était très importante, c'est que le film qui était nominé, pour être nominé aux Oscars, fallait qu'il ait été projeté dans deux ou trois cinémas à Los Angeles. Évidemment, pour les films, ça va être très compliqué d'être projeté, puisque maintenant, ils sont carrément diffusés avant leur diffusion sur les différents networks d'Universal ou de la Warner. Eh bien, ça ne sera plus une obligation pour cette édition des Oscars.
C'est une mesure exceptionnelle, valable seulement pour cette édition. Et il faut quand même que les films aient été, leur sortie en salle ait été prévue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des films dont il était prévu qu'ils sortent que sur Netflix, par exemple, qui se retrouvent aux Oscars. Ça, c'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit pour des raisons particulières liées au coronavirus que ça soit fait. Ouais. Moi, je voulais peut-être dire aussi un mot de Koh-Lanta, parce que il y a quand même eu, à l'occasion du dernier épisode de Koh-Lanta et d'Éliminer Sam, une campagne de critique contre plusieurs des participants qui avaient voté contre Sam. Je pense notamment à Inès, par exemple, à Charlotte, qui ont reçu des menaces de mort.
C'est très violent.
C'est absolument hallucinant. Et là.
Et pourquoi, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pourquoi?
Parce que ils ont décidé de mettre dehors un des chouchous de l'émission qui s'appelle Sam. C'est ça, Rémi, hein?
Ben oui, en fait, c'est un candidat qui est emblématique, a beaucoup de potentiel physique, qui gagne beaucoup d'épreuves, et donc du coup, ils se sont dit c'est une menace. Et donc, on l'exclut. C'est loin d'être la première fois que ça se passe comme ça dans le jeu de Koh-Lanta. Hein. Il y a beaucoup de grands favoris qui se sont fait sortir parce que les autres estimaient qu'ils étaient une menace. Mais là, ça a pris des proportions, puisque Inès a été menacée de mort. On lui a dit, on connaît ton adresse, on va te violer. Et donc, il y en a d'autres comme ça qui ont été menacées.
Et donc, il y a une plainte qui a été déposée. Ouais. Et donc, il faut savoir et dire à ceux, à ces téléspectateurs ou même ces auditeurs malveillants qui sont parfois cachés derrière des pseudos, que la police les retrouvera et qu'ils seront évidemment jugés. Voilà, c'est absolument intolérable.
C'est un scandale. Et pour la première fois, la production a également porté plainte. Ça. Conjointement avec les candidats eux-mêmes qui ont porté
plainte. C'est ce qui devrait se passer de plus en plus. Et vous savez, hier, je parlais du festival des conversations, de l'importance de la conversation. Et on expliquait qu'il y avait de plus en plus d'agressivité, de violence dans les messages Internet. Et moi, je le constate aussi parfois sur certains commentaires vraiment haineux. Donc, c'est vraiment minable. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Gilles. Dans un instant, on se retrouve avec Gérard Collard pour parler livres. Les librairies vont bientôt rouvrir. Donc, à vos crayons pour noter nos conseils lecture. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec l'excellent, le fantastique Gérard Collard. Bonjour Gérard, vous allez bien ?
Oui, bonjour. Et vous, ça va bien ?
Bonjour. Ça va confiné, pas mal.
Toujours
confiné, oui. Absolument, on est prudent à Sud Radio,
c'est bien.
On va rester confiné pendant un petit moment encore. Vous, en revanche, vous allez commencer à déconfiner partir du 11 mai. Racontez-nous un petit peu ce que les libraires vont... Comment vous allez faire, vous, libraires, pour ouvrir vos librairies à nouveau?
Nous, on a préparé un système de, vous savez, les gestes barrières, les 1 mètre, on commence à mettre du scotch pour pas que les gens, on va faire différentes entrées, une entrée, une sortie, on va mettre, vous voyez, on va s'arranger pour que l'occupation de la boutique soit plutôt fluide, il y a du gel partout, on a des masques, on va demander aux gens de mettre des masques, et puis en plus, on va lancer le bal des masques, c'est-à-dire que pour pas que ça soit trop triste, on va faire en sorte, on va demander aux gens d'avoir des masques rigolos, de les décorer, de mettre des... Voilà, que ça soit fun, que ça soit pas triste, qu'on en profite pour être une sorte de Venise à sa mort, quoi. Donc c'est...
Un peu surprise, vous allez remettre le prix du meilleur masque.
Ouais, un truc comme ça, que les gosses aussi, et puis que ça soit le carnaval de Venise, version masque, mais bon, à sa mort, dans le 94, ça va être...
Il faut expliquer à nos auditeurs aussi, qui sont passionnés de livres, que tout, et on le dit dans tous les secteurs, le 11 mai, le 12 mai, tout ne redevient pas normal et qu'il y a une remise en route qui va être longue et compliquée, en particulier pour les livres. Vous me disiez que vous aviez des clients qui étaient très impatients. Il faut du temps pour remettre tout le système en place.
Alors, quand vous êtes dites des clients impatients, je veux dire qu'il faut pas non plus. Vous savez, c'est comme quelqu'un quand il y a plein de gens qui vous disent qu'on vous aime, et puis qu'il y en a deux qui disent qu'on vous aime pas. Vous focalisez sur ceux que vous aimez pas. Et là, il y a quelques personnes comme ça qui nous disent mais vous êtes des incapables. Les livres, je les ai pas encore. Je vais aller chez Amazon. Entre parenthèses, je leur signale que c'est fermé. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient une notion de chose, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même planète. Les éditeurs fonctionnent avec un minimum. Peu à peu, le nombre de personnel va revenir, mais ils sont sur un minimum de personnel. Ils ont des tonnes. Alors, il faut que j'explique, c'est un peu ésotérique aux gens. On va peut-être un peu moins parler de livres, mais il faut vraiment qu'ils se rendent compte de ce que c'est. C'est que les libraires, il y en a plein qui vont mourir. Il y en a qui sont vraiment... le risque est énorme. Donc, ils renvoient des livres à l'éditeur. Donc, il y a des tonnes de livres qui vont rentrer chez l'éditeur. Il y a des tonnes de commandes qui sont là avec un minimum de personnel. Donc, ça va être très, très long. La moyenne, en ce moment, c'est 10 jours pour avoir un livre. Sans compter de la poste qui est pas en veille, mais qui est moins rapide, moins nombreux que d'habitude. Donc il faudrait que les gens soient conscients, c'est que nous on fait tout ce qu'on peut, mais il y a un moment on peut pas aller plus vite que la cavalerie. Hein. Donc on va ouvrir, on va mettre nos tables devant, là, même avant le 11 mai, pour que les gens viennent chercher les livres. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on fait ce qu'on peut. Les livres, on les aura, on les aura pas. Si on les a en stock, on les a en stock. On fait vraiment.
Chez les éditeurs, même pour les éditeurs, c'est très compliqué.
Ah, c'est une catastrophe. C'est dramatique.
Et ne renoncez pas. Les livres vont arriver.
Et soyez patients. Je comprends que c'est pas drôle. mais bon, je trouve qu'on est vivant, on a la chance de pouvoir retrouver des livres, on va pouvoir aller chez nos tout petits libraires, parce que bon, il y a des grands, ce qu'on appelle des grands libraires qui ont les moyens et tout ça, ça va être très compliqué pour eux aussi, hein, ça faut être conscient, parce que les grands libraires, ils vont s'en prendre plein la tête aussi, mais aller chez votre petite libraire de quartier où ils sont que deux, que trois, parce que eux, ils sont très, très, très en danger, donc par pitié, allez-y.
Si vous voulez pas que les librairies disparaissent, on a parlé des restaurants, 30% risquent de fermer, dans les librairies, il risque aussi d'y avoir beaucoup de casse. Il y a beaucoup de livres qui vont aussi, les éditeurs, il faut le dire, vont complètement chambouler leur programme, des livres qui étaient prévus en mars. Alors, tous ceux qui sont sortis en mars n'ont vraiment pas eu de chance. Alors, je ne sais pas s'ils ont une deuxième chance, mais c'est terrible pour ces auteurs.
Notre grand truc, ça va être ça. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant que libraire tel qu'on est, on ne va pas abandonner ces gens qui sont parus au mois de mars. Au contraire, on va les remettre en valeur et puis chacun prendra son tour. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a les liens qui vont arriver, mais je ne vais pas virer ceux qui sont au mois de mars. Ils n'ont pas à être pénalisés parce qu'il y a des très, très, très bons livres. Et donc, ces livres-là, on va les remettre en exergue et tout. On va continuer. Puis, je crois que c'est ce que vont faire tous les libraires. Hein. Donc, même si les livres sont parus en mars, allez-y, lisez-les, achetez-les, demandez-les, citez, mais il faut qu'ils existent, quoi.
Absolument. Ben moi, tiens, je vais commencer à vous parler d'un livre qui est paru le 19 mars, donc elle n'a pas eu de chance du tout. C'est un livre d'Henriette Walter. Henriette Walter, elle est formidable.
Ah ouais.
Vous l'avez certainement vue plusieurs fois à la télévision. Elle est linguiste, elle est drôle, elle est curieuse et elle vous fait découvrir des tas de choses à travers le langage. Alors, ne fuyez pas. En particulier, ce livre, je suis tombée dedans, c'est vraiment le cas de le dire, s'appelle Les petits plats dans les grands. Alors, tout le monde était devant sa télé à regarder Cyril Lignac ou sur son portable à faire les recettes. Là, ce ne sont pas des recettes. Les savoureuses histoires des mots de la cuisine et de la table chez Robert Laffont, c'est en fait, donc il n'y a pas de recette de tarte aux pommes ou de bœuf bourguignon, mais c'est toute l'histoire de la cuisine avec des mots, des petits quiz, le pain, d'où vient le pain, quel mot, quel rapport entre le pain et d'autres mets. Et puis j'ai trouvé, alors après, ce qui m'a fait rire, c'est les mets préféré des célébrités. Alors les célébrités, c'est Montaigne, c'est Cicéron. Alors Montaigne, vous savez ce qu'il aimait ? Le melon.
Non.
Je ne savais même pas qu'à l'époque, il y avait du melon. Il y a plein de petits quiz sur la différence. Est-ce que vous savez la différence entre le mirepoix, la julienne et la brunoise, sur le masculin et le féminin. Il y a plein de choses. C'est même un livre qu'on peut lire en famille parce que vous apprendrez énormément de trucs. J'ai adoré ce livre. Ça s'appelle La savoureuse histoire des mots de la cuisine et de la table. Les petits plats dans les grands. C'est chez Robert Laffont. L'auteur, c'est Henriette Walter. Vous pouvez déjà même acheter en poche si vous n'avez jamais rien lu d'elle. Mais c'est vraiment une femme formidable, avec beaucoup d'humour, beaucoup de curiosité, et vous apprendrez beaucoup de choses sur notre cuisine. Alors, Gérard.
On est là pour être un peu dans la gaieté, un peu, vous voyez, dans les trucs un peu sympas. Ouais. Et voilà. Moi, j'ai redécouvert, je n'avais pas lu. Hein, j'avais lu. L'auteur, c'est Ray Célestin, comme l'eau, Célestin. Enfin, voilà. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Carnaval. En 2018, et là, il vient de faire paraître un autre bouquin qui s'appelle Mafioso, et entre-temps, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Mascarade. C'est en 2018, hein, c'est des petits livres de poche, c'est pas très cher, ça pas dans les années 1920. Carnaval, c'était tiré, le Mascarade, là, je veux tellement aller vite. Mascarade, en fin de compte, ça se passe à Chicago dans les années 20. Et il y a, alors, c'est Chicago, vous savez, les abattoirs, c'est l'époque d'Al Capone, c'est l'histoire aussi où vous allez voir Satchmo, le fameux Jazzman qui va arriver à Chicago, et vous avez plein d'empoisonnements. C'est-à-dire qu'il y a toute l'élite de Chicago qui est empoisonnée, à tel point qu'Al Capone, il commence à s'inquiéter parce qu'il voit que son deal et tout ce qu'il fait commence à être menacé par toutes ces morts, et vont intervenir là un couple d'enquêteurs assez, vous allez voir, assez particuliers. C'est un peu, je ne peux pas vous en dire trop parce que si, on va encore me dire que j'en dis trop.
Ça s'appelle comment ?
Carnaval de Ray Célestin, c'est en 2018. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Mascarade, celui-là aussi de Ray Célestin en 2018. Et le dernier, il s'appelle Mafioso. Alors celui-là, il cherche midi, il est un peu plus gros. Mais lisez Mascarade et Carnaval en 2018 pour commencer. Vous allez voir, c'est toutes les années 20 aux États-Unis, la prohibition, le jazz. Cette population noire qui est un peu qui est pauvre, qui fait tout ce que les autres ne veulent pas faire. C'est un charme fou. ça, on a l'impression qu'il y a une bande son derrière avec ce jazz des années 20-30. Moi, j'ai découvert vraiment un type qui m'a absolument passionné et qui m'a changé les idées. C'est-à-dire que voilà, il y a des trucs qui sont un peu lourds et là, c'est tout à fait léger, mais vous redécouvrez une époque, il a un talent. Là, j'avoue que je suis un peu resté bouche bée devant son talent, devant cette, ces vivants.
Donc, Polar, Polar qui vous fait redécouvrir cette époque des années 20. Ou qui
des
qui
années
20
à Chicago. Avec Chicago, c'est une ville quand même très, très spéciale, hein, très, très dure, très, très colorée, mais très vivante. Voilà, avec la confrontation entre les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, la drogue, la mafia, Al Capone qui commence à sucrer les fraises, c'est le moment de le dire, qui va pas très bien dans sa tête, qui se demande ce qui se passe. Et une fois que vous avez commencé un, c'est comme une drogue, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas. Je veux dire que vous passez un super moment. Voilà.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de Nick Hornby? Il avait écrit « Haute fidélité », qu'on a adoré. Ça. Alors, j'ai regardé ça à 20 ans, ce livre. Ça a été adapté en série. C'est un livre qui nous avait beaucoup plu à l'époque. Donc, si vous l'avez loupé, allez-y en poche. C'est l'histoire d'un disquaire qui est très exigeant, tant au niveau de la musique que de ses relations. Enfin, vraiment, ça, allez-y. Mais ce n'est pas celui-là dont je vous ai parlé. C'est de son dernier livre qui s'appelle « Un mariage en 10 actes » qui est sorti chez la Cosmopolitan. Chez Stock, c'est un couple marié depuis une vingtaine d'années, ils ont la quarantaine, tout va à peu près bien, il y a eu un petit accroc, donc ils décident d'aller voir un thérapeute pour couple, et puis ils se donnent rendez-vous dans un pub, évidemment, ça se passe à Londres, un pub londonien, et ils s'installent, ils sont juste face à la porte d'entrée de la thérapeute, donc ils voient les gens, les couples entrer et sortir, et puis c'est l'occasion de revenir en 10 petits actes sur leur mariage. Nick Hornby, il a le don de nous emmener au plus profond. Ouais. Il a beaucoup d'humour, beaucoup cet humour anglais à la fois assez pince sans rire, un peu cynique, où on voit que il y a cette phrase qui est en quatrième de couverture. Un mariage, c'est comme un ordinateur. Voilà le problème. On peut toujours le démonter pour explorer l'intérieur, mais quand on se retrouve avec des milliers de pièces détachées, on n'est pas plus avancé. Le ton du livre, ça s'appelle Un mariage en 10 actes, c'est Nick Hornby, Hornby, et c'est chez la Cosmopolite de Stock. Gérard.
Alors, moi j'ai lu parce que j'ai mon associé qui m'a dit il faut que tu lises le dernier Barbara Bell, absolument. Ça s'appelle Les vivants autour chez Belfort. Alors, moi, Barbara Bell, j'aime bien, hein, c'est des bons polars, mais c'est en fonction de ses goûts, hein, c'est vraiment une excellente fille, enfin, une excellente écrivain. Et là, je me le suis pris. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont détesté ce bouquin, et moi j'ai complètement flippé, j'ai adoré, j'ai été complètement fasciné par ce bouquin. C'est l'histoire de Jeanne. Alors, elle aurait pu déraper, elle aurait pu faire quelque chose de quelconque, parce qu'en fait, ça rappelle au début le cas Vincent Lambert. Vous savez, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle a une vingtaine d'années, elle a eu un accident de voiture, elle est dans le coma, elle est végétative. Et puis, autour de son lit, il y a son père, sa mère, son frère, son mari et sa sœur. Et là va commencer un truc. C'est psychologiquement, c'est une étude incroyable. Je me suis pris vraiment plein la tête. Ces personnages, genre, il y a le père, alors lui, c'est un chef d'entreprise, il va à 100 à l'heure, il adore sa fille, hein, il adore sa fille. Il est vraiment limite de l'odieux, mais il veut la garder quand même en vie, hein, malgré qu'il y a la mère, Michelin. Alors, c'est à mon avis un raccourci de ces femmes des années 70 qui dit que elle n'a pas pu se rebeller, elle était trop vieille pour se rebeller, mais elle n'a pas non plus profité des femmes pour se libérer de son mari. Et puis un jour, alors là, alors il y a tous les caractères, hein, vous lisez, il y a tous ces gens qui ont des vies assez dures, assez. Moi, j'ai été complètement pris psychologiquement. Et un jour, il y a le prof qui leur annonce, alors il croit que c'est parce qu'ils veulent la débrancher, et là, il va leur annoncer une nouvelle absolument incroyable, inconcevable, presque déconcertante. Enfin, vous êtes là, vous lisez ça, vous dites c'est absolument pas possible, et tout va exploser. Alors, je peux pas raconter trop parce que c'est toujours le
même problème. Oui, après, faut pas dévoiler la suite.
Ouais. Et puis, vous allez avoir une espèce, c'est presque shakespearien, c'est d'une force, c'est incroyable. On s'y retrouve tous. Moi, j'étais très touché par cette femme, Micheline, la maman et la femme de cet homme. J'étais énormément touché parce que je trouve qu'elle représente vraiment la situation de beaucoup de femmes. Et puis, il y a ce cas shakespearien, vous allez voir, quand vous allez découvrir, je ne vous le dis pas, mais ce qui va se passer à cette jeune femme qui est végétative, vous allez être complètement KO debout. C'est un roman, pour moi c'est plus un roman parce qu'il y a des gens de polar qui vont dire « Oh oui, il se passe rien ». Là non, c'est vrai qu'au niveau du suspense, c'est pas très 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 important. C'est surtout l'espèce de
clos entre ces personnages. De huis clos et de climat très pesant. Quoi.
Ah,
donc
oui,
redites-nous, donc elle s'appelle Barbara Abel, A-B-E-L.
Oui, alors elle, c'est une des plus grandes écrivains belges et francophones. Hein, c'est vrai, on n'a pas à lui faire sa pub. Ouais. C'est une excellente écrivain. Et ça s'appelle « Et les vivants autour », c'est chez Belfond. Alors soit vous allez détester, soit vous allez aimer. Moi, j'ai été complètement shooté à ce... C'est comme des larmes d'acide. Ça vous coule,
Après, vous situez l'environnement, si on a envie d'aller dans cet univers-là ou pas.
Ouais, absolument.
Autre chose ?
Alors, on va complètement changer. J'ai découvert un livre que j'ai adoré qui s'appelle « La préhistoire du sexe » de Timothy Taylor. Je sais que ça va vous plaire, ça.
Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi vous dites ça.
Parce que j'aimais le sexe, la préhistoire.
J'aime la préhistoire.
Vous adorez.
Voilà. Donc, vous me connaissez bien.
C'est un archéologue, un grand archéologue anglais, qui je crois va à Cambridge, appartient à l'université de Cambridge, et qui à partir des dessins, des fouilles, des squelettes et tout, va essayer de concevoir ce qu'était la notion de sexe à la préhistoire. Alors jusque-là, on pensait que c'était des gros Russes, vous avez genre Tarzan, on se tape sur les pectoraux, et il s'avère pas du tout, qu'ils étaient beaucoup plus sophistiqués que nous, et qu'il a fait la différence entre le sexe reproducteur, c'est-à-dire le côté nécessaire, ce qui est encore pour beaucoup de gens, et puis ce qui est pour le plaisir, ça va de la masturbation, passant de la zoophilie, l'homosexualité, la prostitution, il y a plein de choses comme ça. Et j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et vous êtes complètement... moi, j'ai été complètement vanté par ce livre. Et vous découvrez plein de choses. C'est pas rigolo, hein. C'est pas... il fait pas ça. C'est pas le gars qui va avoir inventé ça pour le plaisir de vous faire rire. Pas du tout. Vous apprenez plein de choses.
C'est très sérieux,
Oui, vous rendez compte que l'homme a tout de suite fait la différence, et la femme, entre le plaisir et la nécessité. C'est-à-dire que, si la nécessité peut se couper au plaisir, c'est bien. Mais que dès la préhistoire, ils étaient déjà très sophistiqués. Allez-y, personne n'y va naturellement, mais c'est lisible par tout le monde. Ça s'appelle « La préhistoire du sexe » de Timothy Taylor et c'est dans la collection Nouveau Monde. Voilà.
Eh bien, écoutez,
ça
formidable. Ça me va très bien. On va évidemment aller se précipiter sur ces livres-là. Merci beaucoup, Gérard. Bon courage à vous pour les commandes.
Et puis, c'est sûr qu'on va se revoir bientôt.
Comment vous êtes optimiste, Gérard. Il faut être optimiste, tout va aller bien. Écoutez, portez-vous bien et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres, d'autres conseils lecture. Voilà, merci à vous. On se retrouve nous dans un instant en direct pour commenter l'actualité en ce 1er mai. À tout à l'heure, à tout